Vous écoutez On lit pour vous.
L'histoire des peuples autochtones présentée aux nouveaux arrivants francophones. Un texte de Chantalia Louis, paru le 28 juin 2024 dans Le Droit d'Ottawa-Gatineau. Présenter l'histoire des peuples autochtones du Canada, qui n'est pas celle que l'on connaît nécessairement, c'est ce qu'a voulu partager la conférencière Diane Campeau lors d'un atelier sur l'histoire des peuples autochtones du Canada. Même son de cloche pour Fatan Joudad, elle-même immigrante de l'Algérie. Arrivée au Canada, je ne connaissais pas vraiment l'histoire autochtone, avoue-t-elle. C'est à travers de différents ateliers qu'elle a pu comprendre l'histoire des premiers peuples. Par ailleurs, Diane Campeau prend bien soin, au début de la conférence, d'assurer qu'elle ne s'identifie pas comme une personne autochtone, mais comme une simple alliée de ces communautés. Enseigner et sensibiliser. En plus d'enseigner l'histoire des Premières Nations, la doctorante décortique les réalités des Autochtones d'aujourd'hui. En effet, l'image des premiers peuples peut parfois être négative et les statistiques ne sont pas très réjouissantes, se désole Diane Campeau. En tant que nouvel arrivant, on peut avoir, par méconnaissance, des préjugés, soutient pour sa part Fatan Joudad. Pour contrer ces préjugés et cette mauvaise compréhension de l'histoire des peuples autochtones, Diane Campeau incorpore dans sa conférence, entre autres, le traitement que recevait la population autochtone dans les pensionnats, la loi sur les Indiens et bien d'autres. Quand on a vécu des traumatismes comme tels dans son temps, ça explique des difficultés sociales qui peuvent exister aujourd'hui, ajoute Diane Campeau. Elle insiste aussi sur la résilience de ces peuples, entre autres à travers leurs langues qui survivent malgré les obstacles et partagent aussi leurs connaissances sur la nature, les plantes médicinales, etc. Encore aujourd'hui, on se sert des connaissances des Premières Nations pour gérer les feux de forêt, mentionne-t-elle. On doit encore se documenter sur les savoirs ancestraux qu'ils possèdent et qui sont très importants. Un lien avec les nouveaux arrivants. Selon Diane Campeau, lorsqu'elle donne cette conférence aux nouveaux arrivants, les émotions sont nombreuses et fortes. En plus de découvrir une histoire moins joviale du Canada, plusieurs personnes immigrantes s'y reconnaissent dans non seulement leur tradition et leur culture, mais aussi bien souvent leur histoire troublée par le colonialisme des Européens. C'est quelque chose qui bouleverse un petit peu, admet Diane Campeau. C'est difficile pour les gens. Ils se rendent compte que le colonialisme, ce n'est pas seulement dans leur pays qu'ils ont vécu, donc il y a diverses émotions qui sont là. Diane Campeau comprend que cet atelier peut ternir l'image du Canada, mais je pense que ça les aide à comprendre les obligations que l'on a en tant que citoyen canadien de la réconciliation et de la réparation. Poursuivre l'apprentissage. Diane Campeau ne souhaite pas que les participants s'arrêtent à son atelier d'une heure et 30 minutes. Elle recommande aux participants, nouveaux arrivants tout comme citoyens canadiens, de s'intéresser davantage aux cultures, aux langues, aux traditions et les savoirs autochtones. Ce n'est pas juste les nouveaux arrivants. Ça concerne tout le monde, avance Fatan Joudad. Je constate que même les Canadiens natifs, quand on donne des ateliers comme ça, découvrent encore des choses qu'ils n'ont pas apprises. Diane Campeau, pour sa part, insiste sur l'obligation morale au nom de la réconciliation. Elle est ferme. Il est aussi important de faire l'effort de s'instruire soi-même et s'impliquer dans les communautés autochtones à travers, entre autres, le bénévolat. Ce n'est pas seulement aux Autochtones à expliquer tout le temps qui ils sont, conclut-elle. C'était l'histoire des peuples autochtones présentée aux nouveaux arrivants francophones, un texte de Chantalia Louis, paru le 28 juin 2024 dans Le Droit d'Ottawa-Gatineau.
Ella Maillard, voyageuse sans boussole, un texte de Gwenaëlle Abolivier, paru le 18 juin 2024 dans Terre d'aventure. Portrait d'Ella Maillard, voyageuse indépendante et intrépide, dont les yeux n'ont jamais cessé de regarder le monde avec curiosité et étonnement. Qu'est-ce qui préside au choix de nos destinations de voyage? Un livre, un film, une discussion? Et si nos envies d'aventure et d'évasion dépendaient de nos rencontres? À y regarder de près, la vie de l'exploratrice et photographe Ella Maillard, née en 1903 à Genève, est ponctuée de rencontres décisives. Tout a commencé au bord du lac, vaste pièce d'eau qui se révèle le lieu de projection de ses désirs de liberté. Elle a 10 ans quand ses parents louent une maison à 7 kilomètres de Genève, au creux de Jean Todt, où s'organise une vie de plaisance. Là, elle rencontre celle qui va devenir sa grande amie, Hermine de Saussure, sa voisine, de 2 ans son aînée. Toutes deux sont faites pour s'entendre. Hermine, qui n'aime pas son prénom, se fait appeler Miette, car elle est aussi légère qu'une miette. Issue du milieu aristocratique de l'une des plus anciennes familles de Genève, elle va lui ouvrir la voie à la navigation et au chemin d'eau. Les deux adolescentes apprennent de manière empirique, en observant et en répétant les gestes des matelots. Elles font leur premier rond dans l'eau, empruntent des embarcations et remportent des régates. Plus rien d'autre ne compte pour Ella, qui devient une mordue de la voile. Volontaire et passionnée, Ella et Miette passent leur journée sur l'eau et ont en tête la descente du Rhône pour rejoindre Marseille et la Méditerranée. Miette financera l'achat de leur premier voilier, Perlette, un cotre de 3 tonnes et de 7,20 mètres de long, équipé d'une petite cabine qui devient leur cabinet de lecture et d'écriture. En février 1923, Miette et Ella Maillard, qui a tout juste 20 ans, appareillent pour un voyage de 6 mois le long de la côte adriatique, cap sur l'île de Beauté. À leur retour, elles font la connaissance d'Alain Gerbeau, skipper du fameux Firecrest, qui est sur le point de larguer les amarres pour la première traversée de l'Atlantique en solitaire, à la voile et sans moteur. La complicité est immédiate entre les deux jeunes garçons et le champion de tennis, revenu traumatisé de la Grande Guerre, où ses amis sont tombés au champ d'honneur. Ella et Miette font partie de cette jeunesse bouleversée qui tente de trouver un sens à son existence et, en définitive, une place dans un monde déchiré par le conflit mondial. Une fidèle amitié naît entre Alain Gerbeau et Ella Maillard. C'est lui qui lui fera rencontrer un éditeur et l'encouragera à poursuivre sur le chemin de l'écriture. Après la Corse, s'ensuivent des voyages maritimes vers la Crète avec les équipières de la Bonita, puis sur la côte atlantique. Mais quand, en 1926, Miette de Saussure, bientôt mère de famille, renonce à une existence au long cours, tout s'écroule pour Ella. Elle doit à tout prix trouver une échappatoire et se tourne vers d'autres horizons. Cap vers l'Est. Ce sera l'Orient où s'ouvrent des chemins terrestres qui la guident jusqu'au Pacifique. C'est alors qu'elle se rappelle une discussion qu'elle a eue à Paris avec le romancier Luc Durtin, reconnu pour ses grands reportages de terrain écrits dans la veine de Joseph Kessel. Lors de cet échange, il lui a soufflé « Pourquoi n'iriez-vous pas réaliser à Moscou un reportage sur la jeunesse russe dont on ne sait rien ?» Qu'à cela ne tienne. Et voilà Ella Maillard, âgée de 26 ans, en route pour la Russie. Nous sommes en 1929 et elle fait un arrêt à Berlin où elle croise Charmian London, la deuxième épouse de l'écrivain Jack London. Âgée de 58 ans, Elle se prend d'amitié pour la jeune voyageuse et, outre un chapeau, lui offre 50 dollars, une somme considérable pour l'époque, qui lui permet de poursuivre sa route vers l'est. À partir de Moscou, Ella Maillard va explorer les montagnes du Caucase et la région inconnue de la Haute Svanétie, qui appartient aujourd'hui à la Géorgie. Ses rêves de voir Samarcande et les routes de la soie, son vif intérêt pour les tribus nomades ne la quitte plus et, en 1932, elle repart vers les hauts plateaux du Kirghizistan, les Tian Shan ou montagnes célestes, qui s'étendent jusqu'à la Mongolie. Mais les voyageurs étrangers ne sont pas désirés dans ces régions proches de l'Afghanistan et de l'Inde. Par chance, là encore, elle réussit à s'associer à une petite expédition de scientifiques qui lui permet de cheminer et d'accéder à ces territoires lointains ainsi qu'aux peuplades nomades qui résistent à la colonisation soviétique. Son récit très documenté des monts célestes au sable rouge lui ouvre les portes du musée Guimet et du Petit Parisien. Élie-Joseph Bois, rédacteur en chef du quotidien, est une rencontre très importante qui hisse la voyageuse au rang de grand reporter. Il accepte la proposition d'Ella de réaliser des photographies et des papiers au Manchukuo, région méconnue d'Extrême-Orient, située au nord-est de la Chine, envahie en 1931 par les Japonais. 6000 kilomètres, 7 mois et une traversée. En 1934, elle met le cap sur l'Asie, carte de presse en poche, et en novembre, au fin fond de la Sibérie, elle tombe nez à nez sur Peter Fleming, journaliste au Times, frère de Ian, le créateur de James Bond. Une fois de plus, cette rencontre est décisive, car il décide d'entreprendre un voyage non sans risque, accéder à la région interdite du Xinjiang, actuelle région autonome ouïghour. Ensemble, ils réalisent un exploit, soit 7 mois d'une lente traversée à pied du monde sur plus de 6000 kilomètres. D'après Nicolas Bouvier, leur périple est sans doute le plus beau trajet de pleine terre qu'on puisse faire sur cette planète. Prenez la map monde et trouvez mieux. S'ensuivra un voyage clé pour Ella Maillard, la route de l'Afghanistan et de l'Iran. Au Liban, elle tombe sous le charme de la romancière Anne-Marie Schwarzenbach. Sa personnalité, son aura et son intelligence interpellent Ella, qui pense pouvoir éloigner la Suissesse de ses addictions à la morphine. En mai 1939, afin de tourner le dos au conflit qui gronde, les deux jeunes femmes repartent vers la Turquie et Kaboul, à bord de la Ford V8 qu'Anne-Marie a reçue en cadeau de ses parents. Cette expérience va agir comme un déclic. Ella découvre alors une dimension plus spirituelle et verticale du voyage. Quête qu'elle prolongera en Inde, où elle restera près de 5 ans, pour suivre les enseignements de ses maîtres. Ella Maillard est certes un exemple d'indépendance et de liberté. Si, à plusieurs reprises, dans ses courriers inédits et dans ses récits, elle dira préférer voyager seule, pour décider par elle-même et pouvoir aller le nez au vent, force est de constater que, sur les chemins du monde, elle ne pourra se passer des autres. C'était Ella Maillard, voyageuse sans boussole, un texte de Gwenaëlle Abolivier, paru le 18 juin 2024 dans Terre d'aventure.
Une recette gagnante pour une cohabitation réussie avec les sans-abri. Un texte de James Hughes, paru le 26 juillet 2024 dans La Presse. Il faut l'admettre, la situation de l'itinérance dans notre métropole ne va pas bien, et ce, malgré les efforts considérables déployés par les organismes communautaires et gouvernementaux. Chaque jour, nous sommes témoins de la précarité croissante de nombreux citoyens qui se retrouvent à la rue, souvent pour la première fois. James Hugh est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Voici son point de vue. Les causes de l'itinérance sont multiples. Perte d'emploi, accès aux soins pour les problèmes de santé mentale et les dépendances, et surtout, une pénurie de logements sociaux et abordables. Cette réalité est déchirante et demande de trouver des solutions rapidement, avec compassion et créativité. Nous le répétons depuis des années, la meilleure réponse à cette crise et aux problèmes de cohabitation qui en découlent est d'offrir une option de logement adaptée à tous. Le logement est un droit fondamental et chaque personne mérite un endroit sûr et stable où vivre. Malheureusement, dans le marché actuel, il s'agit d'un rêve plus que d'une réalité. Pour remédier à cette situation, l'instauration d'un véritable droit au logement est cruciale. Il est impératif d'investir massivement pour atteindre un parc locatif composé d'au moins 20 % de logements sociaux, à l'image de plusieurs pays européens ayant démontré qu'il est possible de garantir un toit à tous en mettant en place des politiques sociales ambitieuses et des investissements conséquents dans le logement social. Des pistes de solutions. En attendant de telles mesures, que peut-on faire collectivement? Regarder passivement le problème de l'itinérance s'aggraver ne fera qu'accentuer les conflits dans l'espace public. À court terme, il demeure essentiel d'offrir des services d'hébergement d'urgence adaptés et modernes à la population en situation d'itinérance, et cela à travers la ville. Et quelles sont les conditions gagnantes à considérer pour installer de tels services dans des quartiers dits résidentiels comme Rosemont, Hahnsic, Verdun et Côte-des-Neiges? Voici quelques éléments à prendre en considération. Disponibilité 24 sur 7. Des services accessibles et sûrs en tout temps, sans interruption. Espaces dignes et intimes. Des lieux d'accueil offrant des espaces individuels dignes, augmentant le sentiment de sécurité et d'intimité. Équipe bien formée. Du personnel qualifié dans l'accompagnement des résidents et résidentes vers les solutions permanentes de logement. Offre alimentaire de qualité. Des repas sains et satisfaisants encourage la présence régulière au sein des services. Services médicaux sur place. Une présence récurrente de soins de santé accessibles directement sur place selon les besoins de la clientèle cible. Contrôle du périmètre de l'établissement. Assurer la sécurité des lieux et des alentours. Bonne communication. Informer et dialoguer avec les résidents du quartier avant et pendant l'implantation d'une ressource avec un numéro de téléphone pour les urgences par la suite. Adaptation. Chaque organisme doit adapter ses services selon la réalité de chaque quartier en considérant également la capacité d'accueil. Il ne faut pas perdre de vue que les établissements d'hébergement d'urgence offrent bien plus qu'un lit pour la nuit. Ces services permettent aux individus de faire les démarches administratives, parfois lourdes et longues, qui leur permettront ensuite d'accéder à un logement. Récupération des pièces d'identité, déclaration de revenus à remplir, inscription à une subvention au logement, PSL, et recherche de logement. En tant qu'organisme voué à la recherche de solutions à l'itinérance, C'est notre mission d'accompagner chaque individu volontaire vers les opportunités limitées de logement actuelles. Les inquiétudes en matière de sécurité de la part du voisinage, voyant un nouveau projet dans son quartier, sont légitimes, mais un refus total de quelque projet que ce soit pour des personnes en situation d'itinérance garantit que les problèmes d'itinérance en milieu public empireront. En d'autres termes, en matière de cohabitation sociale, il est essentiel que chaque quartier fournisse sa part d'efforts. En agissant ensemble, avec détermination et humanité, nous pouvons améliorer la situation à court terme en continuant d'espérer un avenir plus lumineux pour tous nos concitoyens montréalais. C'était une recette gagnante pour une cohabitation réussie avec les sans-abri. Un texte de James Hughes, paru le 26 juillet 2024 dans La Presse.
Se battre à coups d'émoji. Un texte de Jean-Louis Bordeloup paru le 8 août 2024 dans Le Devoir. Melon d'eau et noix de coco dégagent un parfum politique sur Internet. L'un évoque l'appui à la cause palestinienne, l'autre à la campagne présidentielle de Kamala Harris. Point levé, drapeau, clin d'œil. Les emojis seraient-ils devenus incontournables dans les luttes d'aujourd'hui? Le drapeau palestinien est présent dans le clavier de nos téléphones, mais sur une autre image qui relaie la lutte de ce peuple dans le monde virtuel, le melon d'eau. Tel un symbole cryptique, plus court qu'un slogan et plus sympathique qu'un drapeau, le fruit qui dévoile lorsqu'il est coupé les mêmes couleurs que l'étendard palestinien s'est répandu sur les comptes en ligne qui soutiennent la cause. Le dernier de ces emojis à saveur politique, la noix de coco. L'image est devenue virale sur la toile dans les dernières semaines comme représentation de la campagne de Kamala Harris. La boule brune au cœur blanc fait référence à une vidéo où l'aspirante présidente lance, hilar, que personne ne tombe d'un cocotier. Cet extrait tiré d'un discours où elle soulignait l'importance des leaders positifs dans l'éducation des jeunes a fait mouche sur les réseaux sociaux et la métaphore a été reprise par ses partisans. Elle-même n'est-elle pas justement tombée dans la course présidentielle grâce à un concours de circonstances? Afficher une noix de coco est aussitôt devenu le code d'un mouvement politique. Ces emojis résumeraient donc en un seul caractère tout un groupe social. On s'en doute, mais on n'a pas de recherche sur ça, spécifie la chercheuse à l'Université d'Ottawa Isabelle Boutet, qui a signé quelques articles scientifiques sur le pouvoir de ces emojis. Double sens, double tranchant. Le double sens politique de ces pictogrammes en apparence bénins ne se traduit pas partout de la même façon, pas plus qu'il ne se comprend du premier coup. La tranche de melon d'eau a, par exemple, été l'emblème de la contre-offensive de l'armée ukrainienne dans le sud du pays, là où pousse le dit fruit, avant d'être remise en avant par les militants pro-palestiniens, qui utilisait d'ailleurs ce symbole même avant l'arrivée d'Internet. Le point noir reste encore le symbole du mouvement Black Lives Matter, une allusion évidente aux manifestations afro-américaines. De manière plus absconce, l'extrême droite s'est approprié le signe OK avec doigt en rond pour la représenter. Curieusement, les icônes de drapeaux sont reconnues comme étant les moins utilisées parmi les 3782 emojis existants, comme si leur sens était trop évident. Gare aux interprétations confuses, même dans les conversations privées. Le signe du pouce en l'air représente une signature valide de contrat, a déterminé l'an dernier un juge de la Saskatchewan. Celui du fusil a été interprété en France comme une menace de mort. En Floride, l'aubergine et la pêche ont été considérées par la loi comme une forme de harcèlement sexuel. Unicode, l'organisme international responsable d'approuver les nouveaux emojis, reconnaît sur son blog que ces symboles ne sont pas universels. Par contre, ils gardent leur sens dans une même ère culturelle. Par exemple, le pouce en l'air est un signe positif dans la culture euro-américaine, mais peut-être offensant en Iran ou dans d'autres pays du Moyen-Orient, selon cet organisme transnational. Être accessible dans de vastes et grandes aires culturelles est donc le premier critère d'acceptation des nouveaux symboles dont le nombre augmente d'année en année. Une binette pour se faire comprendre. Si les icônes et autres petites têtes jaunes sont devenues aussi incontournables, c'est qu'elles sont nos visages en ligne, indique Isabelle Boutet. L'humain est habitué à s'exprimer de façon subtile. Les emojis jouent un rôle très semblable au ton de la voix, à l'expression du visage, aux gestes. Ils clarifient les intentions. Chez Unicode, on a notamment pris soin d'ajouter des tons de peau, des genres différents et toutes sortes d'autres nuances qui servent à communiquer notre identité au-delà des mots. Ces signes traduisent notre personnalité et notre appartenance à un groupe de la même façon que l'ajout de nos pronoms dans notre signature de courriel ou l'insistance pour changer la couleur de peau de notre pouce en l'air. La personne qui utilisera souvent le bonhomme sourire sera considérée comme plus chaleureuse, tandis que la tête fâchée projettera une image plus dominante, démontrent les études sur la question. Dans un contexte professionnel, ces nuances peuvent devenir inconvenantes, reconnaît Isabelle Boutet. Dans certains groupes, ça peut être problématique. Ce n'est pas parce que c'est facile à ajouter que ça n'a pas le même impact fonctionnel et social. Ça a le même impact qu'une expression faciale. La révolution emoji, entamée au tournant des années 2000, a tout de même permis de résoudre quelques vieux problèmes de communication. Les humains ont par exemple longtemps cherché comment exprimer l'ironie ou le sarcasme par le texte. Des auteurs européens avaient tenté d'imposer au 19e siècle un point d'ironie en forme de point d'interrogation inversé. Le problème, c'est que personne ne comprenait le sens du gribouillis. Les études en linguistique démontrent les unes après les autres que l'emoji de clin d'œil ou celui de la langue tirée placée après une phrase ambiguë sont les meilleurs pour faire comprendre intuitivement le sarcasme. Inversement, certains emojis portent à confusion. Un message négatif auquel on accole un sourire pour signifier l'ironie, comme le souligne Isabelle Boutet, ça ne passe pas bien. Comme quoi, aussi parlant qu'il puisse paraître, un emoji ne vaut pas mille mots. C'était « Se battre à coups d'emoji », un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 8 août 2024 dans Le Devoir.